France Culture.
Marie-Aimée Copleutre, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Rassemblement de l'extrême droite à Londres, des dizaines de milliers de personnes déjà rassemblées à l'appel de Tommy Robinson, un militant islamophobe et xénophobe. Nous serons en direct depuis London Bridge avec notre correspondante sur place, Gaëlle Joly. En France, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu échange actuellement avec des médecins en Saône-et-Loire pour son tout premier déplacement. Dégradation de la note souveraine de la France. Hier soir, par l'agence américaine de notation Fitch, elle passe de A- à AA+. Quelles conséquences pour les marchés ? Explication avec Marcia Nezic. En fin de journal, direction au théâtre pour les 130 ans du Théâtre du Peuple de Buchan, au cœur de la forêt vosgienne. Et notre invitée, c'est la directrice du théâtre, Julie Delisle. Ils sont déjà plusieurs milliers à se rassembler sur les pavés de Londres pour une manifestation d'extrême droite organisée par Tommy Robinson, une figure politique britannique connue pour ses propos islamophobes. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes sur place dans le centre de Londres où la manifestation se prépare.
Oui, une manifestation littéralement noyée sous les drapeaux britanniques et anglais, la croix de Saint-Georges, rouge et blanche. Et ils sont déjà des milliers à déferler, des groupes d'hommes, une bière à la main, mais aussi des familles avec des enfants sur les épaules des grands-parents qui manifestent pour la première fois. On est venu défendre la liberté d'expression, car on ne peut plus dire ce que l'on veut dans ce pays, nous confiait tout à l'heure des manifestants. Si on dit qu'on est anglais, qu'on est british, on nous prend pour des racistes. Alors, il y a beaucoup de supporters de Nigel Farage, le leader de la droite populiste ici, en tête des sondages. Certains présents aujourd'hui ont manifesté devant les hôtels qui hébergent des demandeurs d'asile. Ras-le-bol de l'immigration illégale, voilà ce qu'on peut lire sur les panneaux. Il chante aussi le nom de Tommy Robinson, vous le disiez, qui a appelé à manifester, un homme qui ose dire la vérité, estime les manifestants ici. Ils viennent de prendre la direction de Whitehall, le cœur du pouvoir politique, avec la présence remarquée de plusieurs personnalités. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, est là. Ou encore Éric Zemmour, le leader de Reconquête, qui devrait même prononcer un discours. La police anglaise est sur les dents. Les hélicoptères survolent sans relâche cette forêt de drapeaux.
Gaëlle Joly à Londres pour France Culture, et une contre-manifestation à l'initiative d'une organisation antiraciste doit se dérouler également dans la journée. Il a été arrêté hier chez ses parents, l'assassin présumé de l'influenceur raciste Charlie Kirk, tué jeudi aux États-Unis d'une balle dans le cou. Âgé de 22 ans, le principal suspect n'a aucune affiliation politique ni casier judiciaire. Vers une reconnaissance de la Palestine, l'ONU a voté hier un projet de solution à deux États, un document qui va servir de base de travail à la conférence du 22 septembre prochain. Le texte a été préparé par la France et l'Arabie Saoudite. Cette reconnaissance des deux États implique la condamnation et l'exclusion du Hamas. Israël dénonce cette résolution, la qualifiant de honteuse. Dans la ville de Gaza, on apprend ce matin que l'armée israélienne que plus de 250 000 habitants ont quitté la ville. Ces derniers jours, l'offensive continue dans la ville de Gaza. Hier, les bombes israéliennes ont tué plus de 50 personnes. C'est son tout premier déplacement depuis sa nomination en tant que Premier ministre. Sébastien Lecornu est actuellement en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, à Mâcon. Il a visité ce matin un centre de santé. Paul Barcelone, vous avez suivi cette première visite et tout s'est fait sous haute surveillance.
Oui, car officiellement, Sébastien Lecornu joue la carte de l'humilité. En arrivant, il salue les élus qu'il appelle tous par leur prénom, dit même bonjour à une habitante intriguée, penchée à sa fenêtre. Les autres sont tenus à l'écart par un dispositif policier. Mâcon semble d'ailleurs assez vide. Ce midi, le nouveau Premier ministre traîne son nouveau costume dans ce centre de soins. 39 salariés, 17 médecins généralistes. Mais un seul consulte le week-end. La cohue des journalistes surprend dans les couloirs. Sébastien Lecornu nous demande régulièrement de sortir, veut privilégier ce contact direct avec les Français. Je ne suis pas venu pour les micros et les caméras, dit-il, avec la volonté aussi de mettre en scène cette promesse de rupture. Le nouveau Premier ministre s'entretient en ce moment avec des soignants et des patients. C'est la dernière étape de cette visite éclair, 2 heures à peine. Avant de rentrer à Paris, ce soir, il donnera sa première interview à la presse quotidienne régionale, avant de reprendre ses consultations avec les partenaires sociaux la semaine prochaine. Toujours à l'abri des regards dans le secret de son bureau à Matignon.
Des consultations qu'il poursuivra lundi et mardi. Bloquons tout, c'est le slogan de ralliement des manifestants en France. Aujourd'hui, à la suite du mouvement de mardi, plusieurs rassemblements organisés dans l'ouest de la France, Rennes, Brest et Nantes, mais aussi à Grenoble, Marseille, Paris ou encore Strasbourg. La France perd son double A, sa note souveraine a été déclassée hier par l'agence de notation américaine Fitch. La note qui indique la capacité du pays à rembourser sa dette passe de A à moins à A+. Fitch estime qu'il est improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029, comme l'ambitionnait le gouvernement sortant. Bonjour, Mersia Nezic.
Bonjour.
Désormais, quelles sont les conséquences pour les marchés? Est-ce que c'est grave?
Ce n'est pas grave à court terme. La France ne devrait pas emprunter à des taux plus élevés malgré la dégradation de sa note. Les marchés ont anticipé, explique Denis Ferrand, économiste, directeur général de l'Institut de conjoncture Execode.
À court terme, donc il n'y a pas d'impact à redouter qui serait massif. Ce qui est plus à surveiller, c'est ce qui va se passer avec les deux autres agences de notation. Moody's va donner son verdict, je crois que ce doit être le 24 octobre, et ensuite vous aurez Standard & Poor's qui le donnera au mois de novembre, à la fin du mois de novembre. Et en fait, s'il y a une autre agence qui nous fait passer dans la catégorie des simples A, alors il va y avoir des conséquences de renchérissement automatique du coût de la détention de la dette pour des acteurs financiers.
Et à plus long terme, Fitch exprime un doute quant à la capacité de la France à maîtriser ses comptes publics. Si on regarde de près le rapport, il y a du souci à se faire, affirme Norbert Gaillard, économiste et consultant indépendant.
L'agence s'attend à des taux de croissance particulièrement faibles pour cette année et l'année prochaine. On serait en dessous d'1%. Et d'autre part, ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que l'agence ne prévoit pas de réduction du déficit budgétaire en dessous de 5% d'ici 2027. Donc actuellement, pour 2025, est prévu un déficit d'environ 5,5%. Selon les prévisions de Fitch, on n'aurait quasiment pas de réduction du déficit budgétaire à horizon 2 ans.
Et oui, ramener le déficit public de la France sous les 3% du PIB d'ici 2029 est peu probable selon l'agence de notation. Et c'était l'objectif du gouvernement sortant, Marie-Aimée.
Les réactions politiques, pour l'instant, le Premier ministre n'a pas commenté cette note. Le ministre de l'économie démissionnaire, Éric Lombard, lui est resté factuel. « Je prends acte de la décision de Fitch », a-t-il écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et puis François Bayrou a jugé, lui, que les élites étaient responsables de cette note en refusant de voir la vérité. Direction au théâtre, mais pas n'importe lequel, celui situé dans la petite bourgade de Bussan, 1300 habitants au cœur des Vosges. Prenons place au Théâtre du Peuple, fondé en 1895 par le poète Maurice Potcher. Il a fêté ses 130 ans cette année. Théâtre populaire, rural, enraciné dans les forêts. Alors l'invité de ce journal où nous recevons la directrice du théâtre, comédienne et metteuse en scène, Julie Delisle. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne sont jamais allés au théâtre, c'est un monument déjà en soi, classé monument historique depuis 1996. Quelles sont les particularités du Théâtre du Peuple ?
Alors sa particularité, c'est que c'est un théâtre entièrement en bois, comme une immense cabane, si on veut le visualiser, qui est à flanc de montagne et qui a le fond qui s'ouvre sur la forêt. Voilà, il est complètement poreux et voilà, lors de chaque spectacle, ou à peu près, on ouvre ces portes du fond immenses. C'est une cabane qui peut contenir à peu près 800 personnes, donc c'est quand même très grand. Et on a cette vision du vivant très très belle.
Alors, le théâtre a été fondé en 1895 par le poète français Maurice Potcher. Il était né à Bussan, puis ensuite il est allé à Paris, il a rencontré des intellectuels, André Gide, Paul Claudel, Paul Valéry. Il fonde ce théâtre loin de Paris. Pourquoi ce choix ?
Alors, il le fonde pas tout seul, il le fonde avec sa femme, Camille de Saint-Maurice, qu'on appelait Tante Cam. Voilà, donc c'est vraiment un couple qui a fondé ce lieu, et c'est important de le rappeler à l'heure actuelle. En fait, il est originaire de Bussan, son père était un industriel, Benjamin Potcher, qui était aussi maire de la ville. Et à l'occasion, en fait, du centenaire de la République, il était demandé à tous les villages de France de donner une pièce de théâtre. Ils ont commencé par donner une première pièce de théâtre à Bussan et le succès a été, en fait, immédiat. aussi parce que la spécificité, le choix de Maurice Potcher et de sa famille, ça a été de prendre les habitants du village et les ouvriers des usines Potcher pour jouer dans les pièces de théâtre. Donc depuis la création, il y a cette tradition de faire venir des amateurs, des gens dont c'est pas le métier, pour venir jouer au Théâtre du Peuple. Et ça perdure depuis 130 ans.
C'est ce qui est écrit sur la façade du théâtre. Aujourd'hui, on peut le voir, ces grandes lettres blanches, Théâtre du Peuple. L'objectif, c'est justement de faire jouer les gens pour avoir un théâtre qui soit populaire.
L'objectif, c'est effectivement de pouvoir accueillir tout le monde. L'objectif de Maurice et Camille Potcher, c'est vraiment de dire on est un théâtre de la diversité. Et en fait, on ne peut pas faire un théâtre s'il n'est pas fait aussi en partie par le peuple, pour le peuple. Voilà, avec des sujets qui le concerneraient. Donc Maurice écrivait des pièces qui étaient tirées aussi des préoccupations que pouvaient avoir les gens à cette époque-là et des problématiques qu'on pouvait rencontrer à cette époque-là. Mais il avait toujours aussi ce désir de pouvoir apporter autre chose parce que c'était un poète. Donc ils ont accompagné un peu tout ce processus-là pour proposer des pièces qui étaient à la fois exigeantes mais dans une grande diversité de sujets montés par des gens qui sont très différents aussi. Et ça, voilà, c'est l'héritage qu'on essaie de faire perdurer depuis tout ce temps. Et ce qu'on a aussi sur le fronton vous avez parlé du bâti du Théâtre du Peuple, mais sur le fronton de la scène, on a cette devise « Par l'art, pour l'humanité » qui est absolument fondamentale et qu'on voit lors de tous les spectacles, voilà, quand on est assis dans la salle.
Et le fait que le théâtre se situe à Bussan, donc 1300 habitants, endroit rural, qu'est-ce que ça signifie? Comment vous le faites vivre, cette ruralité, dans le théâtre?
C'est avoir un théâtre, enfin diriger ou pratiquer son art dans un théâtre qui est autant lié au vivant, parce que la ruralité, parce que la forêt, c'est quelque chose de très fort. Et puis il y a une tradition, c'est vraiment le théâtre des gens de ce village et depuis très longtemps. Donc il y a une familiarité, il y a un travail quotidien avec les gens, il y a le fait qu'on se croise tout le temps, qu'on se connaisse, et de plus en plus d'ailleurs avec les festivités du 130 ans, les associations locales, les habitants, on a vraiment renoué très fort. Et ça, je trouve que c'est à échelle humaine. En fait, c'est grand, mais c'est à échelle humaine. Donc cette ambition-là, elle est vraiment quelque chose qui nous porte très fort.
Et aujourd'hui, vous célébrez les femmes du théâtre. Vous en avez parlé, la femme de Maurice Potcher, oui. Camille de Saint-Maurice. Elle l'a aussi rejoint et elle a fait avec lui elle l'a soutenue toute sa vie finalement.
Oui, énormément de femmes en fait ont œuvré pour ce théâtre et n'ont pas toujours été nommées. On connaît Maurice Potcher, on connaît Pierre-Richard Wilm qui a repris la direction artistique ensuite, on connaît le nom des metteurs en scène qui l'ont dirigé. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont œuvré pour nous. On constate que c'est quand même un matriarcat assez fort, cet endroit, et je pense que c'est le minimum que de les remettre un peu en lumière, de les sortir de l'ombre pour les faire exister. Et la première, c'était effectivement Camille de Saint-Maurice, tante Cam, qui elle était comédienne, hein, qui a eu une carrière, une grande carrière à Paris, et qui est venue entre guillemets par amour pour le lieu et pour Maurice, former des acteurs et transmettre aussi tout son savoir, voilà, pendant des années et des années au sein du Théâtre du Peuple. Donc c'est très important de lui rendre hommage comme à Maurice à l'occasion des 130 ans.
Merci beaucoup Julie Delisle, directrice du Théâtre du Peuple à Bussan dans les Vosges, d'avoir été avec nous sur France Culture ce midi.
Merci.
Moustache, casquette rouge, on passe cette fois-ci au jeu vidéo Super Mario qui fête ses 40 ans. C'était en septembre 1985 que l'entreprise japonaise Nintendo sortait le jeu avec ce personnage, un plombier qui doit sauver une princesse. Mais derrière cette mascotte ultra stéréotypée, c'est un symbole de la multiculturalité, Bruno Duvic.
Mario existe avant 85 dans un autre jeu. Moustache et casquette, c'est le cliché du méditerranéen dans le Japon de l'époque. Il devient italien après une rencontre orageuse aux USA entre son créateur Shigeru Miyamoto et le propriétaire de locaux que loue Nintendo, un italo-américain. L'universitaire Marco Benoît Carbone a étudié de près le personnage.
Selon la légende, il fait irruption dans les locaux au beau milieu d'une réunion avec Miyamoto et le président de Nintendo pour se plaindre parce qu'il y a des arriérés de loyer.
La gestuelle du patron furieux inspire le créateur japonais. Mario se met à dire « Mamma mia » quand le jeu tourne mal. Italien, mais pas seulement, car au fil des années, il faut soigner le marché américain.
Nintendo modifie le manuel du design. On le décrit désormais comme un habitant de Brooklyn.
Mario prend un accent italo-américain. Son succès doit aussi beaucoup à la réputation de l'Italie au Japon dans les années 90.
Au Japon, il y a un Italy boom. Les gens s'intéressent à la pasta, au vin, à l'opéra, à la mode.
Mario, c'est l'Italie mondialisée, comme une pizza napolitaine préparée à New York et emballée à Tokyo.
Bruno Duvic à Rome, la météo de cet après-midi, des risques d'orage en Bretagne, pays de la Loire, les températures entre 17 et 22 degrés. Midi.